Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré.
Et en direct jusqu'à 20h, le club de la presse avec deux invités ce soir. Après 19h30, nous recevrons Mazarine Pinjot qui publie un essai philosophique sur la dictature de la transparence, sujet qu'elle connaît bien. Mais pour le moment, nous sommes avec un entrepreneur qui se lance en politique. Bonsoir Charles Becbédé.
Bonsoir.
Pour vous interroger, je vous présente les trois grandes signatures d'Europe 1. Serge Julie, Robert Namias et Olivier Duhamel. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Charles Becbédé, vous êtes le fondateur de Poéo, le concurrent d'EDF que vous avez revendu ensuite. Vous faites toujours du business, notamment en exploitant des lignes d'autocars, les autocars Macron. Vous achetez aussi des terres agricoles en Ukraine. Ça me passionne. Je sais pas si on aura le temps d'en parler. Vous avez été un des dirigeants du MEDEF et candidat malheureux à la présidence du MEDEF. Côté politique, vous êtes le fondateur d'Avant-Garde, dont vous voulez faire une boîte à idées de la droite, de toutes les droites, on en parlera, et vous publiez charnellement de France un livre, un essai sur l'identité française et les racines chrétiennes de la France. On va en parler aussi. Mais d'abord, puisque vous auriez pu devenir le patron des patrons, vous avez été candidat à ce poste il y a 10 ans. Si aujourd'hui vous étiez à la place de Pierre Gattaz, est-ce que vous seriez sur la même ligne que lui, c'est-à-dire à peu près d'accord avec la loi El Khomri et pas du tout d'accord avec la loi sur la pénibilité qui rentre en vigueur dans 2 jours?
Bah écoutez, non. Je dois dire, moi, comme beaucoup d'autres chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs, ce texte, il est devenu mauvais. Donc quand un texte est mauvais, on le retire. Ça me chagrine d'être d'accord avec la CGT, mais non, là, il y a plus rien. D'autant plus que l'article 2, c'était le seul truc qui restait, qui était un peu innovant, puisque le plafonnement des indemnités de dommages et intérêts en cas de licenciement a été retiré il y a longtemps. L'article 2, c'est la possibilité de faire des accords d'entreprise qui dérogent au code du travail et aux accords de branche. Ben, semble-t-il, est en train d'être retiré. C'est pourquoi je crois Force Ouvrière s'en réjouit. C'est peut-être aussi pourquoi le MEDEF hausse le ton là sur la pénibilité. Donc franchement, pitié, arrêtons ce massacre.
Pardonnez-moi, il n'est pas retiré. Hein. Il n'est pas retiré. Non, il n'est pas retiré. On précise que l'article 2 est maintenu et que donc des accords d'entreprise primeront sur les accords de branche pour les heures sup, pour le temps partiel et pour le travail de nuit. Mais en revanche, sur des secteurs qui n'étaient pas mentionnés par l'article 2, on donne comme garantie que la primauté de la branche subsistera ou sera réaffirmée ou affirmée pour les salaires, la classification, la formation, l'égalisation des professionnels, la pénibilité. Mais il n'y a pas du tout retrait de l'article 2.
Enfin, moi, je suis sur une ligne. De toute façon,
non, c'est juste
ce n'est pas cette majorité qui pourra mettre faire entrer en vigueur ce texte. Quoi qu'il arrive, on le sait bien, parce que les décrets vont mettre des mois à sortir. On sera après les élections présidentielles. De toute façon, tout ça pour rien. Donc, retirons ce texte et que la nouvelle majorité, ça sera forcément une alternance l'année prochaine, fasse un vrai texte avec cette fois-ci de quoi assouplir le code du travail.
Le vrai texte, c'est quoi? C'est ce qu'a voté le Sénat, par exemple, avec suppression des 35 heures. Retour éventuellement aux 39 heures.
Moi, je me battais vraiment pour ce système de plafonnement, de barème des indemnités de dommages et intérêts en cas de licenciement. Parce que tout le monde peut comprendre qu'un petit entrepreneur ne peut pas embaucher actuellement et donc n'embauche pas. Il préfère pas grandir plutôt que d'affronter le code du travail, et donc il y a une certaine paranoïa et qui fait qu'il y a du chômage. Donc il faut qu'on ait un barème très simple. Ben voilà, ça fait X années que tu es dans l'entreprise. Je suis désolé, je dois mettre fin au contrat. Et donc voilà, tant de mois ou d'années d'indemnité. Franchement, c'est ça la meilleure des défenses.
Ça suffit ou le vrai texte, selon vous,
va plus loin?
Quel est le vrai texte selon Becbédé?
Ben c'était donc la version initiale de la loi El Khomri était intéressante.
Mais Olivier Duhamel vient d'expliquer que l'article 2 demeure.
Non, mais il y avait aussi l'article, je ne sais plus quel était son numéro, ouais. Mais il a été supprimé depuis longtemps.
Il y avait le plafonnement des indemnités.
Voilà. Le plafonnement, oui. Et bon, maintenant, il reste cette possibilité de déroger un petit peu.
On ne pas reconnaître les efforts qu'a fait le gouvernement, même si effectivement c'est devenu un peu une espèce de comédie ou tragicomédie, j'en sais rien. Mais
c'est... Et puis en plus, vraiment, on a eu une période épouvantable au niveau des grèves, du social, et donc l'économie qui repartait un petit peu va sans doute être affectée. Quel dommage, d'autant plus que c'était vraiment pas le moment. Quoi. Le gouvernement, il est en fin de partie. Il nous sort un texte là en février, il prend tout le monde un peu par surprise, y compris presque le MEDEF, qui évidemment était d'accord, mais il en demandait pas tant. Et puis ensuite il y a eu ces allers-retours. Donc c'est Hollande, il a été élu sur une autre vision et il change complètement à la dernière minute. Je comprends l'opposition qui a été très forte. Bon, mais maintenant, que l'alternance se produise, que le débat d'idées ait lieu, et puis on verra l'année prochaine.
Charles Bancbédé, invité du Club de la Presse. On marque une pause et on en vient à votre livre « Charnellement de France ». À tout de suite.
Pour réagir au Club de la Presse d'Europe 1, hashtag E1Soir.
Le Club de la Presse d'Europe 1.
C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré.
Et avec l'entrepreneur, le chef d'entreprise, Charles Bancbédé, avec qui on parle maintenant politique, puisqu'il a été le fondateur d'un mouvement avant-garde, une sorte de boîte à idées, et parce qu'il publie Charnellement
c'est
de France.
C'est quand même de s'appeler avant-garde, hein, quand même.
Avant-garde.
Vous nous direz pourquoi.
Alors, on va y venir, Serge. Mais d'abord, je voudrais que Charles Bancbédé nous s'explique une nouvelle fois sur cette phrase qu'il avait prononcée dans une interview au Figaro, c'était il y a un tout petit peu moins d'un an. Vous aviez dit « Je n'aurai aucun état d'âme à soutenir le Front National ». Et puis par la suite, vous aviez dit que c'était une phrase malheureuse. Non, et puis maintenant, vous faites ce livre où il y a quand même des points communs avec le Front National. Alors expliquez-nous où vous en êtes par rapport à ce parti.
Franchement, le Front National, je suis à 180 degrés sur toute une série de sujets. L'école, la vision de la laïcité et bien sûr l'économie. Et ce que j'avais voulu expliquer à ce journaliste du Scan, je crois, c'est que l'avant-garde était vraiment un mouvement indépendant, donc complètement transpartisan, qu'il y avait des gens qui étaient à l'avant-garde, qui venaient de partout, que c'était possible d'avoir une double appartenance. Et pour prouver notre indépendance, j'avais dit si, par incroyable, Marine Le Pen venait à reprendre tout ce qu'on proposait, ben nous la soutiendrons. Mais j'aurais dû prendre Jean-Luc Mélenchon ou mettre les deux personnalités dans la même phrase. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, on m'a mal compris.
Mais Serge, vous étiez quand même à Béziers. Vous avez été invité par Robert Ménard. Mm-hmm. L'objectif de Béziers, c'était quand même des gens du Front National et des gens représentant, disons, des fractions de la droite parlementaire, de la droite républicaine, qui sont plutôt ce qu'on appelle une droite dure ou une nouvelle droite. Hein.
Avec énormément d'opposition et des débats été assez durs. Hein. Yvan Rioufol a failli se faire sortir de la salle sur la table ronde immigration. Pour vous dire un peu la violence de... Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de débattre. On ne débat pas assez des idées en France à gauche, à droite. Et là, ça se passe à droite, en effet. Et c'était intéressant. Moi, j'ai pu m'exprimer sur ma vision d'un État moderne, c'est-à-dire recentré sur le régalien, à des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'entendre ça, parler d'entrepreneuriat. Bien, je pense que c'est utile. On ne fera pas d'alliance entre formations politiques. C'est impossible. C'est une lutte à mort entre les grandes formations politiques, à droite en particulier, entre les Républicains et le Front National. En revanche, on peut parler, échanger et essayer de nourrir les grands candidats qui vont aller à la bataille présidentielle avec des idées.
C'est quoi vos points de désaccord avec, par exemple, un Robert Ménard? Pour pas dire, mais enfin,
c'est pas celui avec lequel j'ai le plus de désaccords.
Oui, mais je le cite parce que lui, il a été élu avec les voix du Front National. Il a accepté les voix du Front National.
Il a accepté, mais je ne ferai jamais.
Si je prolonge Serge Dully, avant de deux dernières interventions et à lire votre livre, Le Pen, non, vous n'êtes pas Le Pen,
non.
Marine. Mais Le Pen, oui, vous êtes Le Pen, Marion Maréchal.
Écoutez, Marion Maréchal...
Qui n'a pas d'ailleurs accepté de rester au colloque de Robert Ménard.
Non, enfin, qui est allé.
Au point qu'on ne comprend plus très bien d'ailleurs.
Sur Ménard, il a une vision de la laïcité et qui est la même que celle de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen et du Front National que je récuse parce qu'ils ont une vision de la laïcité très intransigeante, assez sectaire, qui interdit la manifestation du fait religieux dans l'espace public. Ils veulent interdire le voile dans la rue.
Vous êtes pour la République chrétienne.
Moi, je suis pour que État catholique, mais pour la République de France, c'est-à-dire qui assume son histoire chrétienne, ses 15 siècles de chrétienté, et qui reconnaît une prééminence au fait culturel chrétien. Ce n'est pas le fait religieux ni le fait culturel. C'est culturel.
Je vous ai bien lu. Vous pensez que la loi de 1905 a eu des effets catastrophiques en France, quand même?
Ça a été fait dans la douleur. Mais je ne veux pas rouvrir la boîte de Pandore. En revanche, le décret qui a suivi la loi, en effet, le décret du 17 août 1911, qui ne dit rien quasiment sur l'islam. Et donc, qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur les diplômes des imams, sur l'obligation de faire des sermons en français, etc. Mais moi, je me place sur le point de vue culturel et pas religieux.
Vous n'avez pas répondu quand j'ai dit Marine non, Marion oui.
Eh ben Marion, Marion Maréchal Le Pen va un peu plus loin que ce que je dis, puisque elle est pour une interdiction du voile dans l'espace public, et ce que je rejette.
C'est très trop.
Moi, je fais preuve de. Je pense qu'il faut transmettre notre culture à tous les Français, en particulier ceux qui sont plus jeunes et ceux qui nous ont rejoints plus récemment. Et donc, il faut faire preuve de bienveillance par rapport à certaines manifestations culturelles qui nous sont totalement étrangères, mais en même temps dire que ces manifestations culturels, ce ne sont pas nos traditions, et il faut donner une force juridique au vieux principe « à Rome fait comme les Romains » que saint Ambroise disait à saint Augustin dans l'Antiquité.
Pardon, comment on traduit ça dans la loi française?
C'est-à-dire qu'on a des traditions culturelles et il faut pas il faut les respecter, il faut les comprendre, il faut se fondre et s'assimiler à ces traditions.
C'est-à-dire par exemple on interdit les fêtes de fin de Ramadan qui vont avoir lieu dans quelques jours?
C'est-à-dire dans nos villages il y a des clochers, il n'y a pas de minarets. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire que on s'habille pas comme un riad dans les rues de France, sauf quand on va à la mosquée, naturellement. Mais quand on va dans un hypermarché, on n'a pas besoin de s'habiller comme un riad ou au Soudan.
Mais à l'inverse, il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Enfin, si je comprends parfaitement bien d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous autorise vraiment à faire que, au fond, seule la chrétienté soit le substrat de la nation française. Je veux dire, il y a quand même des millions de Français qui ne sont absolument pas chrétiens. Je ne pense pas du tout ni aux juifs ni aux musulmans, qui sont totalement athées, mais fondamentalement, qui n'ont eu aucune éducation religieuse, qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Et alors, à partir de ce moment-là, comment doivent-ils se sentir par rapport à cette France chrétienne que vous souhaitez voir retrouver ses valeurs fondamentales?
Cette chrétienté, elle est partout. Mais aller au musée du Louvre, enlever tout ce qui est chrétien.
Non, mais vous
chrétien,
répondez pas à ma question.
Il n'y a plus d'œuvres.
À ceux qui vraiment n'ont rien à voir avec la chrétienté.
Parce que ça n'est pas le toucher au musée ou au clocher.
Parce que ça n'est pas philosophiquement leur monde.
Mon propos n'est absolument pas religieux. C'est juste un fait historique. Mais nous avons également des racines grecques, latines, scandinaves, germaniques. Et nous avons ces 15 siècles de chrétienté qui ont façonné la France.
Mais d'accord, où est le problème? Mais où est le problème? Personne ne dit qu'il faut abattre les clochers. Personne ne dit qu'il faut enlever les symboles chrétiens du musée du Louvre. Donc où est le problème? En quoi est-ce qu'il faut re-christianiser quoi que ce soit?
On re-christianise.
Alors il faut quoi? Qu'est-ce qui manque?
On assume notre histoire et notre identité.
Mais tout le monde l'assume, qu'est-ce qui va pas?
Car on ne peut pas faire aimer un pays, une nation, si on se ment à soi-même. Donc, premièrement, et ça c'est parce que de remède il n'y en a qu'un, disait Simone Veil, la philosophe, donner à aimer la France aux Français. Et puis ensuite, c'est fonder le « à Rome fait comme les Romains » pour expliquer à tous les Français qu'il y a des traditions culturelles, il faut les respecter. Et puis c'est aussi fonder en droit...
C'est la fille aînée de l'Église quand même, que vous nous racontez là.
Les lois non écrites, la loi naturelle, c'est l'inceste qui est interdit, l'assassinat c'est mal. Donc quelque part, en mettant les racines chrétiennes dans la Constitution, on fondera en droit cette notion évidente de cette sagesse populaire qui fait qu'il y a 1000 générations qui nous ont précédés, qui ont fait la civilisation et que on peut pas à chaque majorité tout défaire. C'est le principe de la table rase que je remets en question.
Est-ce que vous acceptez l'idée qu'il y a quelque chose de totalitaire dans ce que vous dites là? C'est-à-dire qu'au fond, quand même, c'est si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas français, quoi, en gros. Mais si vous n'êtes, mais même si vous ne l'êtes pas, parce que vous n'allez pas à l'église, mais si vous n'acceptez pas les valeurs chrétiennes telles que vous les avancez, vous n'êtes pas français. En gros, c'est quand même ce que vous dites. C'est extrêmement totalitaire.
J'ai dit exactement le contraire. Ce qu'il faut accepter, en effet, c'est c'est que notre société est structurée par son passé, par son histoire, et que à un moment, les révolutionnaires, en 1789, lorsqu'ils imposent le principe de la table rase et brûlent tout ce qui nous a précédé, ont fait preuve d'une arrogance folle, et on en paye encore les conséquences.
Ils n'ont pas tout brûlé, il y a de beaux restes.
Il y a de beaux restes, notamment la liberté d'expression, on est bien contents.
Et ils l'ont inventé en particulier.
Merci à eux.
La philosophie des Lumières, on est aussi structuré par des philosophies athées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la chrétienté qui a structuré la nation française.
Mais je prône une modernité corrigée dans mon ouvrage. Je ne suis pas un réactionnaire, simplement je veux essayer de proposer une façon de réconcilier tous les Français.
Robert Damias, vous avez aussi demandé au détour d'une phrase que vous pensiez du mariage pour tous.
Moi, j'ai manifesté contre parce que je pense que l'union d'un homme et d'une femme est encore le meilleur moyen d'élever des enfants. Et c'est pour ça que la société, la civilisation, lui avait donné une importance et a voulu l'institutionnaliser.
Est-ce c'est tout. Qu'un type comme vous, totalement moderniste, totalement dans le 21e siècle, totalement publicitaire, mondialisé, totalement.
Ah moderne, oui, mondialisation heureuse, même pendant très longtemps.
Devienne comme ça le chantre de la réaction du retour en arrière.
Il n'est pas tout seul. Hein,
la Révolution française, qu'est-ce que c'est mal c'est, on oublie nos valeurs chrétiennes. Qu'est-ce qui a provoqué cette conversion?
Vous arrivez quoi? Je récuse ce que vous dites sur mon côté réactionnaire, mais simplement, je suis un entrepreneur. D'abord, j'ai le droit d'avoir des convictions il faut arrêter de mettre les gens dans des boîtes. Et puis, accessoirement, un entrepreneur, il a envie qu'il y ait de la croissance. Et pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait de la confiance. Et on est dans un tel climat de défiance et que ce n'est pas simplement en traitant le problème économique et social avec quelques réformes qu'on sortira de cette crise identitaire et culturelle très forte que ressentent les Français en ce moment.
Non, malgré tout, la question se pose. Vous venez de cette mondialisation qui est rejetée par toute une partie de notre population, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi ailleurs. Vous en venez, vous y êtes toujours d'ailleurs, et d'un seul coup, vous prenez une sorte de tournant, quoi.
Non, mais
je
veux réconcilier les Français qui veulent conquérir le monde et tirer parti de la mondialisation, puis ceux qui sont enracinés et qui sont très inquiets en effet par la question culturelle qui se pose à eux, ces traditions qui se manifestent devant eux et où ils ne se reconnaissent plus. Et je pense que c'est ça la vraie question. Je vous assure, c'est l'angoisse civilisationnelle dont parle Finkielkraut. C'est cette insécurité culturelle dont parle Laurent Bouvet. Et c'est ça le vrai sujet de 2017. Oui. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est, à mon avis, la cause du Brexit et du vote des Anglais.
Oui, mais justement, il faut inventer. Il y a 5 millions, plus 6, peut-être 6 millions de musulmans en France.
Peut-être 10.
Comment vous faites
pas.
Pour que ce ne soit pas du rejet.
Je leur parle, mais eux, ils n'ont pas envie d'aimer une France purement intellectuelle,
qui vous dit
extrêmement élitiste. Ils veulent aussi une France charnelle. Et quand je leur parle des racines chrétiennes de la France, mais ils disent « mais oui ». Alors peut-être pas tous. Mais il me dit, mais oui, vous avez raison. C'est votre histoire, c'est vrai. C'est votre histoire, c'est notre histoire. J'ai parlé à cette belle association France Fière, qui réunit des patriotes de sensibilité musulmane. Mais franchement, il y a une écoute et il y a une compréhension de ce que je dis. Ne croyez pas que je suis en opposition entre différents Français de confessions différentes.
Et un dernier mot, Charles Becbédé. Qui pour défendre ses idées à la prochaine présidentielle? Éventuellement vous?
Non, mais l'avant-garde, c'est un think tank. On nourrit les grands candidats.
Hervé Mariton.
On a besoin d'autorité, on a besoin de liberté économique, on a besoin aussi d'être clair sur le communautarisme.
Votre porte-drapeau communautarisme.
Eh bien, on verra. J'avoue que j'ai pas très envie de faire confiance à quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités. Donc, tous les anciens premiers ministres, les anciens présidents de la République, pour moi, ils sont un petit peu hors jeu dans le monde idéal. Mais comme on n'est pas dans le monde idéal. Écoutez, on verra en novembre.
Le monde idéal, Hervé Mariton, c'était quand même bien.
Merci beaucoup, Charles Becbédé, invité du Club de la Presse, pour ce livre qui vient de sortir, donc qui s'appelle Charnellement de France. Dans quelques instants, suite du Club de la Presse avec Mazarine Pinjot qui vient nous parler de transparence. À tout de suite.
Suivez le Club de la Presse d'Europe 1 en vidéo sur europe1.fr. Le Club de la Presse d'Europe 1. 19h, 20h, Nicolas Poincaré.
Le Club de la Presse d'Europe 1 qui reçoit maintenant Mazarine, normalienne, professeure de philosophie à l'Université Saint-Denis, Paris, et qui publie La dictature de la transparence, un essai sur un sujet que vous connaissez bien. Bonsoir Mazarine Pinjot.
Bonsoir.
Je vous présente vos trois examinateurs de ce soir, parce qu'on dirait un grand oral.
Non, pas examinateurs.
Les trois grandes voix d'Europe 1, Serge Julie, Robert Namias et Olivier Duhamel. Dès les premières lignes de votre essai, Mazarine, vous précisez que vous connaissez bien le sujet parce que vous avez été vous-même quelqu'un d'absolument secret lorsque vous étiez la fille secrète de François Mitterrand, puis quelqu'un au contraire d'extraordinairement exposé lorsque votre existence a été révélée. Vous êtes donc à la fois sujet et objet de votre propre livre.
Ouais, Je précise et j'évacue aussi parce qu'effectivement ça peut être un sujet en soi, et en l'occurrence le parti pris c'est d'être un essai et non pas un récit autobiographique. Alors le fait d'être à la fois objet et sujet de son travail, je pense que ça l'est toujours plus ou moins, peut-être pas de manière aussi évidente et visible. Et alors la question de la visibilité, c'est justement le propos de ce livre. En effet, j'ai connu, alors on va dire l'ombre, hein, ça va être comme ça un mot pour définir globalement le fait de ne pas avoir été reconnu publiquement dans sa filiation, et ensuite une visibilité un peu excessive. Et c'est plutôt ça d'une certaine manière qui m'intéresse dans l'ouvrage, c'est de questionner ce que c'est que la visibilité comme une nouvelle forme d'invisibilité, puisque en étant tout à coup connu et puis vu, surtout parce que c'est une image hein, qui m'a fait connaître, en étant affiché, en voyant ma propre image dans les kiosques à journaux, oui. Absolument.
La couverture,
ça a été une nouvelle forme de masque. Et voilà, je trouve intéressant de voir comment finalement c'est l'image qui finit par masquer presque plus que l'absence d'image. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où l'image est omniprésente, sature le réel à un point absolument, enfin c'est considérable. Et donc voilà, c'est une réflexion.
Robert Lemaitre, est-ce qu'on peut revenir sur un point d'histoire qui a toujours été discuté d'ailleurs, mais peut-être que je ne vous ai jamais entendu répondre à cette question, que je vous la pose. On a quand même beaucoup dit que François Mitterrand avait, sinon organisé, du moins été très largement consentant à ce moment de transparence. C'est-à-dire qu'à quelques mois de son départ du pouvoir, à quelques mois, deux années de sa disparition, dont il connaissait à peu près le terme, on a beaucoup dit qu'en fait c'était quand même largement organisé, car il avait, lui en tous les cas, besoin de cette transparence. Alors, est-ce que je vous ai
déjà
entendu répondre à cette question?
D'abord, je suis pas sûr que
vous l'avez évoqué avec lui.
Je suis pas sûr que le terme de transparence soit absolument celui qui désigne le mieux cette situation. Je pense qu'on se trompe d'emblée si on est dans cette optique de la transparence qui véhicule toute une idéologie quand même. Et c'est ça qui est déconstruit dans le livre. C'est la question de la mythologie, c'est-à-dire quelque chose justement qui semble être une forme de chose tout à fait naturelle, évidente, alors qu'en réalité, c'est gros et sédimenté d'une véritable idéologie. Alors, je réponds à la question puisque c'est un point d'histoire.
Dans ce cas-là, et c'est un point
apparemment,
d'histoire.
Ça participe de l'histoire de France.
Bah, oui.
Je n'en ai pas dit. Ouais, c'est assez mineur quand même.
Oui,
mais bon, j'en ai pas vraiment discuté avec lui. Ce que j'en sais, parce que mon père était effectivement quelqu'un d'assez secret et ne rendant très peu de compte, y compris à moi-même. Ce que je sais, c'est qu'il ne l'a absolument pas organisé. En revanche, le jour où ses photos sont arrivées sur son bureau et qu'il a vu que ça serait compliqué, il a laissé faire et je crois qu'il en a été très soulagé. Voilà.
Olivier Delavalle.
Pour revenir à ce que vous venez de dire sur le mot inapproprié. Est-ce que c'est pas au cœur du problème finalement que derrière ce mot, bon alors dans votre livre vous dites beaucoup d'ambiguïté des mots, mais je voudrais le prendre sous un aspect plus précis sur en prônant la transparence, pour une part on prône des progrès démocratiques indiscutables par rapport à des sociétés dans lesquelles il y avait l'excès d'opacité sur des choses publiques, sur des données publiques, dans lesquelles on cachait, et d'ailleurs on cache toujours quand on peut, des affaires, des scandales, des détournements, toutes choses qui concernent les citoyens. Et on dit, voilà, la corruption, tout ça. Et donc on dit, eh ben, il faut la transparence parce qu'il faut que la presse dévoile ça, que la justice fasse le travail, etc. Et ça, cet aspect-là, ce progrès-là d'une forme de transparence jusqu'au Panama Papers est absolument légitime. Et puis le même mot recouvre quelque chose de totalement différent, pardon d'être pour une fois un tout petit peu long, qui est l'abolition de la distinction publique-privée, le droit de tout révéler sur la vie des gens, qui ça n'est pas acceptable. Et que dans le fond, il faudrait deux mots et qu'on n'en utilise qu'un.
Absolument. Alors je pense que c'est un évident progrès hein, que cette transparence dans son combat face à l'opacité. Et c'est un progrès démocratique, puisque finalement, l'injonction de transparence n'est propre qu'à un État démocratique. On ne va pas demander de la transparence dans une dictature, par définition.
Donc, la glasnost, hein.
Glasnost, absolument. C'est le terme de transparence. C'est la traduction de la transparence. Donc, ça va avec la démocratie par définition. Mais justement, c'est aussi une pathologie de la démocratie, à mon sens, dans la mesure où cette transparence, enfin, le terme de transparence et l'injonction de transparence est en train de substituer à un discours du droit, à une réflexion sur le droit, un discours moral et moralisateur. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouvel ordre moral, comme ça, de nouveaux chevaliers blancs qui, en plus, en général, ne se retournent pas l'injonction, qui est en train de grignoter sur le combat législatif, le combat du droit, le combat de la justice, parce que pour combattre l'opacité, on a déjà des armes. Enfin, la démocratie n'est pas totalement démunie. Et je pense que la justice a quelque chose à faire, je pense que la loi a quelque chose à faire là-dedans. Alors, pourquoi invoquer quelque chose qui est de l'ordre de la morale? Et c'est toujours extrêmement dangereux, je trouve, de récupérer quelque chose qui est de l'ordre de la morale, parce que la manière dont on l'utilise elle-même n'est pas réglementée. Si vous voulez, la morale, elle est ouverte à tout un chacun, et il suffit de l'utiliser comme une arme. Et on sait bien que la morale de la vertu, si vous voulez, puisque M. Becbédé parlait de la Révolution française tout à l'heure comme l'un des pires mots de l'histoire française, eh bien, effectivement, en tout cas pendant la Terreur, cette vertu de transparence a été revendiquée. Alors, elle peut être très vite.
Il n'y avait pas beaucoup d'enquêtes hein, sur soupçons dont les condamnés étaient
absolument.
L'objet.
Non, mais bien sûr. Oui, mais justement, la transparence allant vers de plus en plus d'une dictature, d'une certaine manière, voire d'un totalitarisme.
Cette dictature que vous dénoncez, Mazarine Poinjot, qui pourrait venir, c'est le fait de gommer ce qui sépare le public du privé, en fait. Ce que vous dénoncez, c'est ce qui se passe notamment avec Internet depuis quelques années, c'est la frontière qui disparaît entre vie privée et notre vie publique.
Alors, je le dénonce, je suis pas là pour donner des leçons à mon tour. En revanche, je l'interroge. Et effectivement, il me semble très dangereux que cette démocratie qui met au centre comme ça ce mot de transparence qui n'est pas interrogé, c'est en ça hein, d'une certaine manière qu'il est dangereux, parce que dans un usage limité, il est absolument nécessaire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Olivier Duhamel, enfin, c'est évidemment que dans certains espaces la transparence semble nécessaire, mais à vouloir la répandre sans réflexion, à ce moment-là elle devient dangereuse. Et elle devient dangereuse parce qu'elle attaque un des piliers de la démocratie, qui est précisément la distinction, y compris interne, entre l'individu que l'on est, la personne privée, et la personne publique. C'est là-dessus que Rousseau, d'une certaine manière, fondait le contrat social. C'est-à-dire que je suis capable, à l'intérieur de moi, de distinguer mon intérêt égoïste de l'intérêt commun. Si je suis pas capable de faire ce distinguo, y compris à l'intérieur de moi-même, alors comment est-ce que, sur quoi est-ce que je peux fonder un contrat social? Alors peut-être qu'on est dans un modèle démocratique où le contrat social est en train de sombrer. Là, on peut se poser effectivement des questions. Mais le contrat social en tant que tel, celui qui fonde l'espace démocratique, il est précisément assis sur cette distinction entre le privé et le public. Et là, on parle, l'injonction de transparence, elle est non seulement une injonction, mais une réalité qui repose effectivement sur un progrès technique qui questionne.
Des exemples, qu'est-ce qui vous a choqué dans l'actualité récente en termes de viol de la vie privée?
On pourrait trouver des exemples, mais vous voyez bien comment la vie privée est de plus en plus grignotée sur l'espace public, que tout le monde est complice de la chose. Hein.
Oui, il y a un narcissisme aussi qui opère. Il y a des gens qui ont envie de raconter, leur vie privée.
Je ne pense pas qu'il y ait les méchants et les gentils d'un côté. Je pense que tout le monde participe de ce mouvement extrêmement délétère qui tend effectivement à brouiller les frontières. Alors on le voit aussi sur Internet, et y compris sur les réseaux sociaux, où finalement qu'est-ce qu'on montre? On montre des images intimes, on montre des images publiques. Qui on montre lorsqu'on poste sa photo? Est-ce que on montre sa réalité, sa transparence?
Mais
je pense que c'est en ça que c'est presque dangereux, c'est qu'il y a une forme de complicité. C'est comme lorsque on critique la possibilité d'être suivi, connu, que nos faits et gestes soient connus, que nos goûts soient connus, comme on le voit sur, je sais pas, Amazon, qui nous propose des livres parce qu'on a choisi tel autre livre, ou des disques parce que on a aimé, je sais pas, un dessert glacé et que d'autres personnes.
Il n'y a aucun viol.
Il n'y a aucun viol.
On n'est pas violé par le fait que Amazon dit avez commandé tel et tel livre.
On est envahi quand même. Hein.
Voilà. C'est un envahissant.
Mais on est complice de ça, dans la mesure où le fait même de téléphoner avec un iPhone, on accepte en général la géolocalisation. Mais il est là le danger, c'est-à-dire que on peut bien critiquer le fait d'être contrôlé, c'est ce qu'on appelle la société. Oui, on peut la refuser, mais en réalité, c'est extrêmement difficile.
Est-ce que vous refusez ou non la géolocalisation?
Et puis quand on a besoin d'un GPS, etc. Bon, c'est ce qu'on appelle la société de contrôle dans laquelle on est complice. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile, d'une certaine manière, de s'en prémunir.
Mais parfois, on est complice plus grave. Hein, c'est-à-dire que même quand on trouve ça sans intérêt, dégueulasse, malsain, sauf que là, il y a Closer qui est là parce que quelqu'un l'a mis là. Et puis ils disent Mazarine Pinjot a un nouveau mec. Et alors que je trouve ça absolument... Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Je vais quand même lire le papier. Hein.
Bah, oui, bien sûr. Non, mais,
et quand je dis je, aussi, c'est un jeu.
Non, mais moi aussi.
C'est un jeu.
Quand il s'agit pas
abstrait.
De moi, moi aussi.
Oui. Okay. Je dis donc, il y a quelque chose dans l'être humain.
Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant que si soi-même, on n'est plus capable de faire le travail à l'intérieur de soi, entre sa capacité à s'élever au niveau du bien commun et en revanche les choses qui sont les plus simples, les plus faciles. C'est-à-dire qu'évidemment que si on a un voici devant la table, on va aller regarder les photos et s'informer, même si on connaît plus personne qui y est. Mais il y a quelque chose comme ça, de cet ordre. Si on va vers la facilité, si on n'est pas capable soi-même de faire le distinguo entre les deux, alors effectivement, sur quoi va reposer la démocratie? C'est juste cette question, mais c'est presque absolument. Une question qu'on doit se poser à soi-même, au premier chef.
Alors, Robert Namias.
Qui peut fixer le curseur? Est-ce que, à vous entendre, c'est uniquement soi, finalement? Parce que entre la transparence absolue, inquisitoriale, que vous décrivez, que vous dénoncez, dictatoriale et inquisitoriale, et l'opacité totale, tout aussi dictatoriale d'ailleurs. Mmh. C'est très intéressant de voir que opacité absolue et transparence absolue mènent à la même dictature,
absolument.
D'une certaine manière.
Et d'ailleurs, elles sont souvent de conserve à l'intérieur d'un même système politique.
Alors, où est-ce qu'on met le curseur? D'abord, entre vie publique et vie privée, c'est extrêmement compliqué, puisque, on le rappelait tout à l'heure, beaucoup d'hommes publics étalent leur vie privée délibérément.
Mmh. Enfin, pas que, hein.
À des fins électorales.
On va aussi chercher leur vie privée.
Il y a les deux, mais à des fins électorales, on sait très bien, on va pas donner les noms. Bon, très bien. D'ailleurs, tous, hein, à un moment donné, vous êtes tous dans Paris Match, vous les politiques, pas vous, Mazarine.
Je suis aussi, malheureusement, sans avoir pourtant fait une grande carrière politique.
La recherche de Paris Match à la veille d'une élection présidentielle. Donc, l'étalement de la vie privée, il est là. Qui et comment, à votre avis, dans votre réflexion philosophique, qui fixe le curseur? Est-ce que c'est uniquement soi? Et où est-ce qu'on le met, ce curseur? Où est-ce que c'est le droit qui le fixe?
C'est une bonne question et difficile. Moi, je crois beaucoup à l'état de droit. Je crois que le droit est capable de réglementer, pour ne pas dire de régler, parce qu'il ne règle pas, mais au moins de réglementer certaines choses, et notamment les espaces. Parce que je pense que savoir définir les espaces, c'est non seulement, on l'a dit tout à l'heure, un fondement démocratique, mais même un fondement de la construction de soi. C'est-à-dire que si les enfants sont plus capables de différencier la salle de bain des toilettes de la rue, et qu'ils s'habillent de la même manière dans leur chambre à coucher et lorsqu'ils sortent en classe, on voit qu'il y a un problème, y compris de société. Enfin, qu'il y a la question de la socialité et du fait de pouvoir ressentir, parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend, enfin qui s'apprend de manière dogmatique, de ressentir la différence des espaces. Alors, qui met le curseur? C'est une très bonne question, parce qu'évidemment, il n'y a pas...
À la fois le droit, incontestablement, qui le met en permanence,
oui,
d'ailleurs.
Oui, qui le fait en permanence.
Avec des lois qui s'accumulent, y compris sur la transparence concernant les patrimoines des
politiques, sur la vie privée.
Il y a des lois sur la vie privée, il y a des lois sur la presse, etc.
Absolument.
Donc, il y a des lois.
Mais je pense que déjà, avant même de savoir qui met le curseur, il faut déjà...
Ou trop, pas assez.
Non, si vous voulez, il n'y a pas une réponse dogmatique. Il n'y a pas une réponse à ça. Il y a d'abord l'idée de pouvoir se poser la simple question de est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans une mise en danger politique réelle, d'accepter et d'être complice, comme on le disait, de ce brouillage des espaces. Est-ce que dans sa pratique, dans son usage soi-même du réseau social, du portable, enfin de tous les écrans qui nous entourent et finalement qui sont dont on a l'impression qu'ils attestent plus du réel que le réel lui-même, qu'ils sont en train même d'amenuiser, d'appauvrir l'expérience propre, l'expérience du corps, l'expérience qui demande nécessairement un ancrage dans le temps, un ancrage dans le réel. On voit à travers par exemple la pratique du selfie que c'est quasiment le fait de pouvoir se voir en image qui atteste de notre présence dans tel lieu, avant même de savoir si on vit cette présence dans tel lieu. Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est ce que propose la philosophie, c'est d'abord une réflexion critique, c'est-à-dire de ne pas prendre ça comme quelque chose de normal et de naturel.
C'est l'antitransparence que, par exemple, de se mettre en scène sur Facebook ou sur Twitter, mais surtout sur Facebook, car c'est une façon de créer un personnage qui n'est pas forcément soi. C'est
alors, ce qui est intéressant, par exemple, par rapport à la transparence, c'est qu'on se montre, par exemple, sur Facebook, ça, en disant, ben voilà, on est transparent, et en réalité, cette transparence n'en est évidemment pas une, parce que dès qu'il y a de l'image, il y a de la mise en scène, il y a un angle, il y a du hors-champ, il faut une contextualisation pour savoir lire les images. Moi, d'une certaine manière, ce que je pourrais préconiser, entre guillemets, même si c'est, encore une fois, c'est pas tout à fait mon rôle, c'est plutôt d'apprendre à lire les images. C'est très difficile aujourd'hui de décrypter une image, de savoir comment on prend une image, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'omniprésence, de saturation du flux d'images qui fait que on ne sait plus décrypter. Il y a une immanence, enfin quelque chose qui, une horizontalité des images qui sont toutes mises à peu près sur le même champ, qui fait qu'on ne sait plus lire comme si on ne savait plus lire des histoires, on ne sait plus lire des images. Peut-être qu'on ne l'a jamais su. Je pense qu'il y a quelque chose à enseigner dans les lycées, dans les collèges aujourd'hui. C'est précisément ça, savoir déconstruire une image pour arriver au moins à avoir une forme de lecture, parce qu'une image ne se consomme. En fait, c'est juste l'idée de une image ne se consomme pas, une image se lit. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de mythologie, enfin de fausse évidence, c'est ça le sens de la mythologie, où une image se consomme et ne se lit plus. Mais c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'autres choses.
Mazarine Pinjot est l'invité du Club de la Presse pour son livre La dictature de la transparence chez Robert Laffont. On revient après une courte pause.
Club de la Presse d'Europe 1.
C'est avec vous, Nicolas Poincaré, jusqu'à 20h. Et à vos côtés, Olivier Duhamel, Robert Namias, Serge Lee. Vous recevez l'auteur Mazarine Pinjot qui signe chez Robert Laffont un essai philosophique, La dictature de la transparence.
Voilà, la dictature du règne de l'image, du tout visible. Et aussi, Mazarine Pinjot, les dégâts de la presse à scandale. En quelques mots, vous remarquez que même quand on a été traîné dans la boue à tort et par la presse à scandale, généralement, on ne s'en relève pas. Vous citez par exemple le cas de Dominique Baudis ou de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. On sent que vous gardez quand même certaines haines envers cette presse à scandale, cette presse caniveau.
Envers les journalistes.
Envers les journalistes de la presse à scandale.
De la presse à scandale. Bah, c'est-à-dire que là, c'est un autre point, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une impunité totale. On peut écrire, il y a toujours ce fameux dicton, il n'y a pas de fumée sans feu, à partir du moment où une rumeur court, ben on peut pas l'arrêter et elle part forcément de quelque chose. Bon, ça c'est.
En ce qui concerne Dominique Baudis, qui effectivement avait été traîné à tort dans la boue et gravement, puisque accusé des pires crimes, c'était pas la presse à scandale, hein, c'était la presse tout à fait sérieuse.
Qui avait d'ailleurs, démoli... je dis pas que c'est la presse à scandale. Je pense qu'on peut élargir la critique à l'ensemble du journalisme. Non, je suis mal placée ici dire ça. Attention.
Non, pas du tout. Pas du
à la
tout,
radio, allez-y. En plus, qui ne privilégie pas l'image, même si maintenant nous sommes filmés à la radio, vous voyez que l'image a même
vous
pénétré le studio radiophonique. C'est quand même une.
Non, mais vous voudriez que nous, les journalistes, on réfléchisse un petit peu plus à ces questions-là, notamment à la question de la démolition de la réputation de certains.
Ça, si vous voulez, ça a eu lieu depuis le début du journalisme et d'une certaine manière, c'est une tendance naturelle. Mais effectivement, je trouve que ça serait pas inutile de réfléchir à deux fois avant de sortir des choses. Mais parce que si vous voulez, c'est un peu spécifique comme question, mais la temporalité du journalisme n'est pas la temporalité de la justice, qui n'est pas la temporalité de la vie individuelle. Et il n'y a pas de synchronicité entre les trois. Et malheureusement, le fait que la rapidité du journalisme l'emporte sur le reste. Et ça, si vous voulez, bah ensuite, il y a pas, je sais pas s'il y a une solution à ça, mais c'est difficile. Enfin, il y a forcément des victimes.
S'il y a une solution à ça,
je ne sais pas. Mais il y a évidemment une responsabilité journalistique dans le choix de faire telle information plutôt que telle autre, telle enquête. Mais ce qui est une difficulté sur la question de la transparence, c'est que ce qu'il y a de plus scandaleux pour moi, le viol de l'intimité de tel ou tel, ça, tout ça c'est vrai, mais pour moi c'est la NSA quand même. C'est le Big Data, mais la NSA, c'est un des gens qui nous espionnent en permanence, qui ont un droit d'espionner en permanence, de fait, qui est contesté. Certes, par beaucoup de gens, mais en gros, il n'y a aucun droit qui limite ce droit, qui permette de contrôler même l'exercice de cet abus de droit. Donc,
on est à un moment où...
C'est vrai que la transparence... transparence, elle est quand même aussi très technologique,
oui, bien sûr,
très politique.
Mais j'en parle.
Très politique.
Je ne mets pas l'un contre l'autre.
Sûr,
je pense qu'on est dans une période de mutation qui est tout à fait passionnante, d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas du tout réactionnaire en disant que c'était mieux avant Internet.
Sûr.
Moi, l'Internet, je l'utilise tous les jours. Pense juste qu'on est dans...
pas d'innocent.
Dans quelques... Enfin, voilà, dans une mutation qu'on ne sait pas encore penser. Et on donne des réponses très rapides. Et encore une fois, des réponses morales. Et je pense pas que la morale et des outils, ni même, soient à même d'apporter des réponses là-dessus. La question de la NSA, le fait des big data, etc., ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous disiez, oui, il n'y a pas de mal à ce que Amazon sache que j'aime la crème chantilly. Bah si, il y a du mal. Il y a du mal parce que ça s'appelle une métadonnée. Enfin, ça s'appelle d'abord une donnée, et de savoir que je vais l'acheter chez U tous les mardis matins, ça s'appelle une métadonnée.
C'est Google, Amazon ou d'autres sont des puissances énormes aujourd'hui. Qui
sont,
qui dépassent même la puissance des États, puisque les États même n'arrivent pas à leur imposer même des règles.
Oui, c'est pour ça que même d'un point de vue politique, on est dans une mutation des modèles qui nous précède, enfin qui précède, j'ai l'impression, la capacité conceptuelle, enfin la capacité de pouvoir comprendre cet objet. Et c'est vrai que la politique devient presque, enfin, ou l'État politique, ou la confédération politique devient presque un rempart à ces nouvelles puissances. Mais en effet.
Est-ce qu'une partie de la réponse, pas la totalité, mais une partie de la réponse à cette quête de transparence qui devient inquisitoriale, y compris de la part de l'espionnage américain ou autre d'ailleurs.
Et pas simplement américain.
Absolument. Je vais vous étonner, mais est-ce que ça n'est pas simplement la liberté, la vraie liberté, la liberté que l'on vit soi? Est-ce qu'il y a une façon de répondre en partie, pas complètement, parce qu'il y a des moments où l'intrusion devient insupportable et il doit y avoir des réponses de toute nature, y compris juridiques. Mais de manière générale, est-ce qu'en affirmant sa liberté, c'est-à-dire au fond une forme d'indifférence à ce qui peut être dit déjà de soi, à ce qui peut être montré de soi, on ne répond pas en partie à cette acquisition quotidienne?
Sans doute, mais ça veut dire là c'est une réponse individuelle qui demande un grand courage, une grande force.
Et vous disiez tout à l'heure précisément qu'il y avait une bonne part de la réponse dans l'en-soi et dans l'individu lui-même.
Bien sûr, mais ensuite ça peut pas être la. Enfin, moi je pense qu'on peut toujours essayer de trouver d'abord des réponses politiques, collectives, juridiques, avant de demander à chacun d'entre nous d'être suffisamment fort pour supporter.
Est-ce que les deux ne sont pas nécessaires?
Les deux sont.
Sans ça, on est totalement tributaire de.
Les deux
de
sont totalement nécessaires, mais si vous voulez, il y a le fait d'être tributaire du regard de l'autre, c'est de toute façon une forme de talon d'Achille pour chacun d'entre nous. Mais quand le dispositif même fait que de toute façon on est tributaire du regard des autres, non pas structurellement parce que quand on grandit dans une société, déjà dans une cour de récré, on est déjà plus ou moins tributaire du regard des autres, mais quand structurellement la société s'édifie sur le regard de l'autre, que ce soit à travers l'écran, que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, à travers le selfie, c'est-à-dire le fait que la mise en image donne une sorte de supplément d'être, alors effectivement, là, ça devient extrêmement dangereux. C'est que ce que vous dites de très juste, d'essayer d'être autonome, indépendant de la façon dont les autres nous jugent,
de liberté sortie,
devient très compliqué lorsque la société et la technologie sur laquelle elle s'adosse elle-même empêche de toute façon d'être indifférent au regard des autres, parce que le regard des autres devient structurant.
Oui. Une dernière question, Mazarine, de Olivier Duhamel.
À vous entendre, c'est une question générale que j'ai pas trop posée, mais il y a pas de vraie solution en fait.
Vous parlez
j'espère
du juste
qu'il
milieu.
Y en a. J'espère qu'il y en a, mais je pense que je pense
là,
que la question de la
solution.
Résistance, puisque c'est ça dont il est question, se loge, et c'est ce que disait Barthes lorsqu'il parlait de l'intraitable. Je parle de Barthes parce que c'est lui qui avait écrit les mythologies. C'est évidemment en référence à son ouvrage qu'on a lancé cette nouvelle collection qui s'appelle donc Les Nouvelles Mythologies. Ce qu'il appelle l'intraitable, c'est l'intime. Mais justement, l'intime lui-même est en train de se redéfinir par rapport au privé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a trois espaces. Il y a l'espace public, il y a l'espace privé, et puis, encore derrière, au fond, encore plus caché, il y a l'espace intime qui serait peut-être le seul lieu qui soit encore inentamé.
On a perdu
et
la bataille publique-privée, il ne faut pas perdre la bataille privée-intime.
J'ai l'impression, et c'est d'une certaine manière ce que d'autres philosophes, pourtant des philosophes vraiment politiques, ont aussi interrogé, comme Rousseau par exemple, pour qui le moi était le dernier bastion de la résistance contre l'État et contre la société.
Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire qu'il n'y avait pas eu cette dictature de la transparence, s'il n'y avait pas eu cette presse inquisitoriale, s'il n'y avait pas eu Paris Match en 1995, vous auriez pu vivre toute votre vie sans que jamais l'identité de votre père soit révélée? Votre vie dans l'anonymat.
Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Ni l'un ni l'autre. Je pense que la violence de l'un est la réponse à la violence de l'autre.
Mazarine Pinjot était l'invitée du Club de la Presse. Merci beaucoup pour ce livre, donc La dictature de la transparence, chez Robert Laffont et dans cette nouvelle collection que vous avez créée qui s'appelle Nouvelle Mythologie. Merci beaucoup d'être venu. Merci Serge Julie, Robert Namias et Olivier Duhamel. Et dans quelques minutes, ce sera à vous sur Europe 1, Frédéric Taddeï. Bonsoir.